Bonjour madame, bonjour monsieur. Ravi de vous retrouver pour Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique, présenté par Danique Talani. Nous discutons de la santé publique en Afrique, qui reste la région du monde où les problèmes de santé se posent avec plus d'acuité. Selon l'OMS, ce continent porte 25%, soit le quart, de la charge mondiale des maladies. D'où l'importance d'une bonne stratégie de santé publique, des efforts des institutions et autorités publiques visant à améliorer, promouvoir et restaurer la santé de la population. Quelles sont les bonnes stratégies de santé publique? Quelle est l'importance de l'accessibilité aux structures sanitaires? À quelles maladies les populations africaines sont encore le plus confrontées?
Dans nos pays, qu'on appelle pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses et les maladies qui sont dues à des microbes.
Voici quelques questions auxquelles répondra le docteur Malunga Metsudila, l'invité de ce programme Votre Santé, Votre Avenir. Le docteur Malunga Metsudila est spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, dont l'un des domaines d'intervention est la santé publique. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, nous vous proposerons un carnet de santé avec Linor Moudou. Et votre avenir, l'invité de la semaine. Voici le moment de suivre l'interview que nous a accordé le docteur Malunga Metsudila.
Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Nous allons donc parler de ce que votre organisation fait, notamment en matière de santé publique. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou bien nous parler de ce que c'est que Sanro?
Oui, qu'est-ce que c'est que Sanro? Sanro, en fait, c'est un acronyme pour santé rurale. Donc, c'est un programme qui a commencé en 1981 grâce à l'USAID. L'USAID est le père de Sanro. Maintenant, nous l'avons accepté. Et donc, si on peut dire le père de Sanro, c'est l'USAID, et la mère de Sanro, c'est l'Église du Christ au Congo, la Fédération des Églises protestantes du Congo. Donc, en 1981, Sanro est né avec l'accord du gouvernement zaïrois à cette époque. Et depuis lors, nous travaillons pour la promotion de la santé, principalement en zone rurale.
Ah, okay.
Maintenant, le ULA est devenu rural-urbaine parce que les villes du Congo ne sont pas tellement différentes des zones rurales.
Merci beaucoup. Alors, dans quelle province Sanro a-t-elle ses activités?
Ah, nous sommes présents dans les 26 provinces de la RDC. Donc, nous sommes présents partout. La RDC est divisée en zones de santé et nous couvrons 516 zones de santé sur les 516 qui existent.
Merci. Et quels sont vos principaux domaines d'intervention?
Bon, nous avons été créés en fait pour promouvoir les soins de santé primaires, mais pour des raisons de contraintes budgétaires, nous sommes réduits maintenant à quelques activités principales, notamment la lutte contre le paludisme, la lutte contre le VIH, la lutte contre la tuberculose. Il n'y a que quelques zones de santé où nous faisons vraiment tout ce que nous sommes obligés de faire, ça veut dire la santé, tous les soins de santé primaires. C'est dans le Kasaï.
Alors, on aimerait savoir, puisque vous intervenez aussi dans le domaine de la santé publique, comment pouvez-vous expliquer ce que c'est que la santé publique et quelle est surtout son importance?
Eh bien, la santé publique s'oppose à la santé individuelle parce que, comme vous savez, un médecin a pour mission de soigner un malade. C'est ce qu'on appelle, ce que nous appelons la médecine clinique. La plupart de nos médecins font cette partie de la médecine, cet aspect de la médecine qui est la médecine personnelle, personnalisée ou privée. Maintenant, il y a une autre partie de la médecine qui voit une communauté comme un malade. Donc à ce moment-là, on parle de santé publique. Et cette communauté peut être un village, un territoire ou un pays. C'est ça, la santé publique. C'est cette partie de la médecine qui donne la priorité à la promotion de la santé communautaire plutôt que de la santé individuelle. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, et la santé publique et la santé individuelle, il y a des zones de superposition. C'est une question simplement de priorité. Qu'est-ce qu'on définit comme son malade? Un médecin vous dire mon malade s'appelle Eugénie, et l'autre médecin va vous dire mon malade se trouve, c'est défini comme la République populaire du Congo, et le Niger. Le Niger, c'est mon malade. Tandis qu'un autre médecin va dire moi, mais malade, mon malade a un nom, un individu ou bien des individus.
D'accord. Alors, suivant les actions que vous menez sur le terrain, quels sont les principaux problèmes de santé publique auxquels les populations sont souvent confrontées?
Bon, ça dépend des pays. Si on divise le monde en pays développés et en pays sous-développés, les maladies les plus importantes diffèrent. Dans nos pays qu'on appelle pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses, des maladies qui sont dues à des microbes, en fait, des maladies de la pauvreté. Les gens n'ont pas un bon environnement, l'environnement est malsain, donc c'est les gens dans ces pays là-bas tombent souvent malades à cause des microbes, de la malnutrition. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, donc dans ces pays là-bas vous allez avoir surtout des maladies dues aux mains sales, bien dues à l'eau malpropre, des diarrhées. Alors que dans les pays développés, comme l'environnement a été assaini, les maladies des microbes ont reculé. Il y a très peu de maladies infectieuses dans les pays développés. Dans les pays développés, comme les gens sont dans un environnement sain, ils vivent plus longtemps. Donc dans ces pays là-bas, on voit plutôt les maladies de l'âge avancé, comme le diabète, les maladies cardiaques. C'est parce que bon, les gens vivent plus longtemps, ils attrapent des maladies de la dégénérescence, des maladies de la vieillesse. Il y a une autre chose qui me paraît très intéressante. Dans les pays du Nord, où le sens de la famille a disparu plus ou moins, de sorte qu'on y trouve beaucoup plus les maladies de la solitude, de la dépression, des maladies du stress. Donc voilà, si on peut contraster le monde développé et le monde en voie de développement.
Là, c'est de façon générale, mais si on veut rester plus précis en ce qui concerne l'Afrique en général et la RDC en particulier, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on y trouve?
Voilà. Il suffit seulement de regarder les statistiques. Quelles sont les maladies qui tuent les Africains? Premier, le paludisme, la malaria. Deuxième, les infections respiratoires aiguës. Troisième, les diarrhées, les maladies diarrhéiques. Et puis alors, il y a la tuberculose, il y a le VIH, mais vraiment, la COVID, mais ces maladies viennent vraiment en quatrième, cinquième position par rapport aux maladies que j'ai citées. Le paludisme, c'est le grand tueur. Les diarrhées, c'est le grand tueur des enfants. Et les infections respiratoires, c'est un autre grand tueur des enfants. Si je peux mettre les maladies sur un podium, je ferai ça.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et qu'en est-il des femmes enceintes? Quelle est la situation des femmes enceintes?
Pour l'Afrique en général, je dirais que la femme enceinte est encore sous ce qu'on nous a présenté comme étant la malédiction de Ève. La maternité fait beaucoup de ravages en Afrique. Nos sœurs, nos maman aime accoucher, malheureusement, l'accouchement, la grossesse, l'accouchement ne se fait pas dans des conditions correctes. De sorte que sur 100 000 naissances, on a 100 000 naissances vivantes, on a souvent en Afrique 500 femmes qui meurent. Je peux dire que chaque jour, parce que moi ce que j'ai dit au Congo, chaque jour qui passe au Congo, il y a au moins 6 femmes qui meurent de complications de la grossesse au moment de l'accouchement, parce que les conditions d'accouchement ne sont pas bonnes. C'est 100 fois plus que dans les pays développés. Les gens n'ont pas d'informations sur la santé. Donc si on peut aussi augmenter les connaissances, les bonnes connaissances de la population en matière de santé, le meilleur médecin de quelqu'un, c'est lui-même. Donc quand l'individu a une bonne information sur sa santé, il devient son meilleur médecin. C'est le malade qui prend la décision de venir à l'hôpital. Et souvent quand ils viennent à l'hôpital, c'est trop tard, parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas, et ils viennent à l'hôpital seulement pour mourir. Voilà l'importance de l'éducation pour le changement des comportements. Assainir l'environnement physique, psychologique de l'Afrique. Donc, si nous faisons l'hygiène publique et nous faisons la bonne éducation, il y aura moins de problèmes auxquels nous sommes confrontés pour le moment.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et qu'en est-il de l'accessibilité aux structures sanitaires?
Il y a deux sortes de problèmes à ce moment-là. Il y a d'abord l'accessibilité physique. Aller au village, dans les zones rurales, moi j'y vais de temps en temps. Et parfois, en route, je rencontre des malades qui ont finalement décidé, après avoir été malades pendant longtemps, qui ont finalement décidé d'aller à l'hôpital. Mais à quelle distance se trouve le premier centre de soins? 10 km? 15 km? Là, vous avez encore de la chance. Mais souvent, c'est au-delà de 20 km. Bien, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de bon moyen de transport. Oh là là, j'ai rencontré beaucoup de malades qui étaient transportés à l'hôpital sur des civières. Et par des gens qui marchent, parfois sur 50 km pour aller à l'hôpital. Ça, c'est d'abord la distance géographique. Nous luttons contre ça en essayant de décentraliser les soins. Ça veut dire en faisant en sorte que certaines maladies soient soignées au niveau du village par des non-médecins et des non-médicaux. Voilà une stratégie. L'autre obstacle, c'est financier. Quand finalement vous arrivez avec le malade à l'hôpital, il faut encore que le malade paye. Hélas, dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas de bon système d'assurance. Et le malade doit payer de sa poche au moment des soins. Et il y a des femmes, que moi j'ai vues, qui sont mortes parce qu'elles n'avaient pas d'argent pour se faire opérer pour la césarienne. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent, soit pour se faire consulter ou même quand ils ont été consultés, pour avoir l'argent pour payer les médicaments. Donc, c'est un obstacle financier. Troisième obstacle psychologique. Les gens ne croient pas en la médecine qu'ils appellent la médecine des Blancs. Alors que la médecine est quelque chose d'universel. Il n'y a pas de médecine des Blancs, médecine des Chinois ou médecine des Noirs. La médecine est une à cause de certaines pesanteurs sociologiques. Les gens préfèrent ne pas aller à l'hôpital, ils appellent l'hôpital des Blancs, même s'il y a des Noirs qui travaillent là-bas, mais c'est l'hôpital des Blancs. Alors ils essayent la médecine empirique qui n'a pas toujours l'efficacité qu'on lui donne. Et alors les gens meurent.
C'était notre entretien avec le docteur Malunga Nyatuzila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asdel en RDC, une ONG dont la santé publique est l'un des domaines d'intervention. Voici à présent le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, des millions de déplacés internes et de réfugiés font face à l'insécurité alimentaire au Soudan. On en parle. Certains réfugiés dans le nord du Nigeria s'expriment sur la situation sanitaire dans les camps. Et de nouveaux essais cliniques en Afrique du Sud pourraient changer la donne dans la lutte contre la tuberculose. De plus, qu'est-ce qu'un bruit rose et comment aide-t-il à mieux dormir? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le rapport 2024 sur les tendances mondiales, Global Trend Report de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, révèle que les déplacements forcés ont atteint des niveaux élevés historiques au cours des deux dernières années. L'un des principaux facteurs de cette augmentation est le conflit dévastateur au Soudan. Depuis avril 2023, plus de 7,1 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et près de 2 millions à l'extérieur. Les observateurs indiquent que les camps de réfugiés sont surpeuplés et sous-financés, manquant de services essentiels tels que l'eau potable, l'assainissement et les soins de santé. Pour aggraver cette situation désastreuse, il y a une crise de malnutrition généralisée. Les détails avec Ginny Niwa.
Environ 18 millions de personnes souffrent déjà de la faim, dont 3 600 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë selon les Nations Unies.
Le temps presse pour des millions de personnes, dont 3,6 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë et menacés de famine, qui sont déplacés de leurs terres, vivent sous les bombardements et coupés de l'aide humanitaire. Comme vous le savez, le Soudan est ravagé par la guerre et il abrite également le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur d'un pays dans le monde, soit près de 10 millions. 2 autres millions de personnes ont déjà fui vers les pays voisins.
Les combats et les bains de sang qu'ils ont provoqués dans la capitale Khartoum en avril 2023, forçant des millions de personnes à fuir, ont créé la plus grave crise de déplacement au monde.
Les attaques contre les civils, y compris les violences sexuelles, se multiplient et les hôpitaux et les écoles sont également attaqués. Dans le même temps, les travailleurs humanitaires sont confrontés à des obstructions systématiques, à des refus délibérés d'accès de la part des parties au conflit.
Le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide a déclaré la semaine dernière qu'il existait un risque de génocide dans certaines parties du Darfour. Un rapport soutenu par l'ONU a indiqué en mars qu'une action immédiate était nécessaire pour prévenir une crise humanitaire.
19 organisations humanitaires mondiales, dont 12 agences de l'ONU, ont averti aujourd'hui que si elles continuent d'être empêchées de fournir une aide au Soudan, rapidement et à grande échelle, une famine s'installera probablement dans de grandes parties du pays, davantage de personnes fuiront vers les pays voisins, les enfants succomberont à la maladie et à la malnutrition, et les femmes et les filles seront confrontées à des souffrances et à des dangers encore plus grands.
Cette situation extrêmement précaire fait suite à plus d'un an de guerre entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide.
Nous avons rencontré des réfugiés dans la région de Maïdougouri, dans le nord du Nigeria, et nous leur avons demandé de partager certains défis concernant leur bien-être et la prise en charge sur le plan médical. Voici leur témoignage.
En tant qu'individu, quand je suis arrivé ici, j'étais très bien. Je n'avais aucun problème, mais après 3 ou 4 mois passés dans un camp de déplacés, j'ai été très traumatisé en pensant à mes biens qui avaient été pillés et détruits. Puis j'ai découvert que je souffrais de diabète, d'ulcère, de paludisme très chronique et de typhoïde, c'est tout.
Quand j'étais dans notre village, je ne savais pas ce qu'on appelait une infection urinaire. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes d'infection urinaire. Dieu merci, la clinique et le gouvernement nous ont aidés. nous avons pu bénéficier d'un traitement médical contre les infections urinaires, non seulement pour les hommes, mais aussi pour toutes les femmes. Nous sommes confrontés à ce problème. Il s'agit de l'infection des toilettes, du paludisme et de la fièvre.
C'est la saison des pluies. Je suis confrontée à la fièvre, à la toux et à différents maux de tête à cause du temps. Certains d'entre nous vont à la ferme pour cultiver. Ils vendent leurs produits et obtiennent de l'argent pour acheter des médicaments.
Personnellement, avant je ne savais pas ce qu'était le paludisme, mais quand je suis restée ici, dans le camp de déplacés, j'ai vu les moustiques. La chambre n'était pas comme ça, mais j'étais malade. Même la semaine dernière, je suis tombée malade.
J'étais toujours hospitalisée à cause de mes maladies. Et vous savez, le diabète coûte très cher. J'ai une alimentation différente de celle recommandée par le médecin et je n'en ai pas. Je n'ai pas les moyens de me les procurer. Alors, tout ce qui me tombe sous la main, je le mange et le taux de sucre continue d'augmenter.
Pour en savoir davantage sur l'insécurité alimentaire au Soudan, écoutons l'avis d'un expert.
La guerre au Soudan dure depuis plus d'un an et la situation est catastrophique dans ce troisième pays le plus peuplé d'Afrique. C'est un pays de la taille de l'Espagne en termes de population, près de 50 millions d'habitants. La moitié d'entre eux ont besoin d'une aide humanitaire. Un cinquième d'entre eux ont été contraints de quitter leur foyer et la majorité d'entre eux sont déplacés à l'intérieur du pays dans différentes régions. Près de 2 millions de personnes ont cherché refuge dans les pays voisins comme le Tchad, l'Égypte ou le Soudan du Sud. Les Soudanais manquent d'abri et de nourriture. Ils n'ont pas accès aux soins de santé. De nombreuses structures sanitaires ne fonctionnent plus, en particulier dans les zones de conflit. La situation est désespérée et nous constatons déjà un problème de malnutrition dans différentes régions du Soudan. Par exemple, dans le nord du pays, dans le camp où les équipes travaillent, nous avons effectué un dépistage de masse de plus de 40 000 enfants. Au total, plus de 60 000 enfants, femmes allaitantes et femmes enceintes, et le taux de malnutrition était très très élevé et supérieur au seuil d'urgence. Nous avons par exemple découvert que 30% des enfants de moins de 5 ans dépistés souffraient de malnutrition sévère aiguë et que 8% d'entre eux étaient confrontés à la forme la plus grave de malnutrition. Les vaccins commencent à manquer. Dans de nombreuses régions du pays, nous sommes très inquiets car au cours de l'année écoulée, nous avons déjà assisté à différentes épidémies comme la rougeole, le choléra et cela risque de se reproduire si aucune mesure n'est prise. Les vaccins ne sont pas fournis aux enfants et aux groupes vulnérables. Nous demandons donc aux Nations Unies d'accepter un leadership adéquat au plus fort de cette crise, mais aussi aux autres organisations internationales d'intensifier leurs efforts pour fournir de l'aide et aux autorités des deux parties belligérantes de permettre un accès sans entrave aux populations dans le besoin où qu'elles se trouvent, car nous pensons qu'une partie du problème au Soudan réside dans les obstructions auxquelles nous sommes confrontés de la part des différents des autorités. Il s'agit probablement de l'une des crises de déplacement les plus importantes. Près de 10 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer au cours de l'année écoulée. Et nous parlons d'une crise qui est profondément négligée par la communauté internationale.
Un essai clinique révolutionnaire est en cours en Afrique du Sud, marquant un moment décisif dans la lutte contre la tuberculose. Le nouveau vaccin pourrait potentiellement devenir le premier à prévenir la tuberculose pulmonaire chez les adolescents et les adultes, la forme la plus courante de la maladie. Ce serait le premier nouveau vaccin contre la maladie depuis plus d'un siècle. Reportage Zahir Kassim, récit Rosine Mounezero.
La tuberculose est l'une des maladies les plus meurtrières au monde. Elle est la principale cause de décès des personnes atteintes du VIH, le virus qui cause le sida. Elle tue environ 1,5 million de personnes par an, bien qu'elle soit curable et traitable. En Afrique du Sud, de nombreuses personnes meurent de la tuberculose parce qu'elles n'ont pas été traitées à temps ou n'ont pas continué à prendre les médicaments prescrits. Le nouvel essai du vaccin M72 offre un regain d'optimisme quant à la possibilité de réduire la prévalence de la tuberculose.
We want to end TB. Nous voulons mettre fin à la tuberculose, mais nous n'avons pas grand-chose, même pas de médicaments développés pour la tuberculose. Très peu de médicaments ont été développés pour la tuberculose au cours d'une période donnée. Ce vaccin va être d'une grande aide.
Dans de nombreuses régions d'Afrique du Sud, les tests sont effectués dans des cliniques mobiles. Le vaccin fonctionne avec les personnes atteintes de tuberculose latente. L'infection est présente dans le corps, mais la personne ne se sent pas malade et ne peut pas propager la maladie. La tuberculose ne devient active que si le système immunitaire s'affaiblit. Elle est donc dangereuse lorsque l'immunité est compromise, comme c'est le cas pour les patients atteints du VIH ou du sida. L'essai du vaccin AN-72, dirigé par l'Institut de recherche médicale Bill et Melinda Gates et le Wellcome Trust, représente un effort de collaboration impliquant jusqu'à 20 000 participants. L'étude comprend 60 sites dans le monde, dont 32 en Afrique du Sud.
Il y a également un avantage épidémiologique car la tuberculose est principalement transmise par des individus qui ont en fait une tuberculose active. Ainsi, en réduisant le nombre total de personnes atteintes de tuberculose active dans une population, en particulier dans une population où la tuberculose est latente, on empêche la transmission de l'infection à d'autres personnes qui ne sont pas déjà infectées et on les protège contre l'infection.
Il s'agit du premier vaccin, d'un nouveau vaccin qui a montré une certaine efficacité, c'est-à-dire une protection contre la tuberculose pour les adolescents et les adultes dans les premiers essais cliniques. Nous sommes assez confiants quant à la probabilité d'un résultat positif et nous nous basons sur les résultats de l'étude d'efficacité précédente, la phase 2B, comme nous l'appelons, qui a montré que 50% des personnes, une personne sur deux ayant reçu le vaccin, devraient être protégées contre la tuberculose.
Un taux d'efficacité de 50% permettrait de sauver 8,5 millions de vies et d'éviter 76 millions de nouveaux cas, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les résultats des essais du vaccin seront connus dans 5 ans et s'ils sont concluants, le déploiement du vaccin pourrait commencer en 2030.
Il y a un intérêt croissant pour le bruit rose, le bruit brun, le bruit vert, un arc-en-ciel de sons apaisants et leurs effets théoriques sur le sommeil, la concentration et la relaxation. La science est nouvelle, avec seulement quelques petites études jusqu'à présent, mais des milliers de personnes l'ont déjà adopté sur des applications de méditation et YouTube. Davantage avec Dilidico.
Les applications et les appareils de bruit blanc sont de plus en plus populaires dans la quête d'une bonne nuit de sommeil. Mais aujourd'hui, les dormeurs disposent d'un kaléidoscope d'options sonores. Le bruit blanc est comme un bruit statique. Le bruit brun est plus bas, comme un grondement apaisant. Enfin, le bruit vert se situe entre le bruit blanc et le bruit brun. Les scientifiques ne savent pas quelle est la meilleure couleur. Le docteur Ronel Malkani, chercheur à l'université Northwestern, étudie la science du bruit rose.
La raison pour laquelle nous utilisons le bruit rose est que la distribution des fréquences sonores reflète la distribution des fréquences des ondes cérébrales que nous observons lors des tests d'ondes cérébrales dans le cadre d'une étude du sommeil pendant le sommeil lent. Ce que nous essayons de faire avec cette recherche, c'est de stimuler le sommeil lent, qui est une forme de sommeil profond. Le bruit rose reflète les types de fréquences observées à ce stade du sommeil.
Ces ondes cérébrales lentes étudiées par le docteur Malkani se produisent pendant le sommeil profond d'une personne, ce qui est essentiel pour une nuit reposante.
Ce que nous faisons dans le cadre de notre recherche, c'est émettre des sons d'une manière différente. Les sons que nous émettons sont spécifiquement destinés à améliorer ou à stimuler les ondes lentes du sommeil lent. Pour ce faire, nous émettons de courtes impulsions de bruit rose à des moments précis des ondes lentes.
Dans ces petites études, les adultes ont constaté une meilleure mémorisation après avoir dormi avec les impulsions sonores du bruit rose. La recherche est prometteuse pour des bénéfices allant au-delà d'une bonne nuit de sommeil.
C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. dont l'invité était le docteur Malunga Nyatibila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Afdel en RDC, une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, nous vous avions proposé Carnet de santé. Ce magazine santé a été présenté par Nani Salami grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.